Bonjour à toutes et à tous. Là, elle n'a pas réutilisé la formule, mais tout à l'heure, elle a parlé de la personne qui est à la place à laquelle je suis, comme d'un modérateur. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise pour nous définir. Et j'avais ça aussitôt résonné en tête que c'est bien parce que ça ne conviendrait pas, parce que modérer Richard Morgiev est quelque chose qui semblerait oxymorique. Vous voyez, ça ne va pas ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de ce livre-là, mais avant, il y a plus de 30 livres de Morgiev. Et leur point commun, c'est le régime d'intensité. C'est-à-dire que la proposition littéraire de Richard Morgiev, elle ne va pas vous laisser indifférent. Vous allez prendre, pas prendre, partir, vous prendre des claques, pleurer, rire, mais détester peut-être, et peut-être aussi pas pouvoir aimer tous les livres, hein, parce qu'ils ne parlent pas tous la même langue. Et je parlais de régime d'intensité, c'est-à-dire quand je dis ça, moi, me reviennent en tête des moments de terreur en lisant Sex Vox Dominam, une sorte d'effarement et d'être transi en lisant Le Garçon. Et voilà, et Thomas Gunzig parlait des images qui nous viennent en tête, et effectivement, j'ai des images dans ma tête à moi de ces livres-là, à lecture qui date d'il y a une vingtaine d'années me concernant. Et me revient aussi la façon dont, là, comme ça, le narrateur des hommes, à un moment, se remet soudainement à boire, alors qu'il est abstinent. Voilà, pourquoi ça me revient ? Ça ne me concerne pas particulièrement, je n'ai pas de problème avec l'alcool, mais ça a été écrit une fois par Morgiev, comme nul autre ne l'aurait écrit. Donc voilà, vous avez face à vous un écrivain singulier et généreux, et La Fête des Mères, qui est paru à cet automne pour la rentrée, enfin donc en août, pour la rentrée littéraire chez Joël Losfeld, dont on pourra peut-être parler un moment, parce que c'est un chemin qui a repris, qui s'est interrompu à un moment, et une fidélité qui a repris. Et c'est important pour ce livre-là, parce que la première question va être de contextualisation, puisque ce livre-là, ce qui est particulier, c'est qu'il est signé Richard Morgiev et s'appelle La Fête des Mères. Il a déjà existé, écrit par Richard Morgiev, sous un autre nom, chez un autre éditeur, il y a quelques années. Le même, je ne sais pas, j'aurais dû essayer de me procurer l'ancien texte, mais ce sera aussi partie de ma question, parce que ce livre, dans ce livre, Richard s'emploie à faire ce qu'on appelle techniquement, sauf que c'est bien plus que ça là, un ghostwriter, c'est-à-dire ou un écrivain public, écrire l'histoire d'un autre, techniquement ce serait ça, littéralement, puisque quelqu'un lui a donc confié une histoire. Une sacrée histoire, une histoire de vie. Et donc Richard Morgiev l'a écrite, puis publiée sous le nom de cette personne. Ah non, tu vas le raconter de toute façon. Voilà, ben voilà, je vais transformer ça en question plutôt que de me prendre les pieds dans le tapis. Parle-nous de ces deux moments d'écriture. C'est-à-dire, tout simplement, l'histoire qui t'a été léguée, comment s'est passée cette première écriture, la nécessité de cette écriture-là, et puis ce voyage-là, et puis, dans un deuxième temps, la nécessité de la reprendre dans cette deuxième version.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là. Et je remercie Gwenaëlle d'avoir fait cette belle entrée en matière. Alors voilà, il y a de ça une dizaine d'années, j'ai reçu un coup de téléphone d'un bonhomme que j'avais rencontré quand j'étais jeune, c'est-à-dire quand j'avais 20 ans à Versailles, où j'étais quasiment clochard. Et lui était un fils de très grande famille. Et ce gars arrive chez moi, et avec un présent. Et je me suis fait chier. Donc j'en avais marre. Et lui aussi en avait marre, d'ailleurs, je crois. Et il est reparti avec son présent. L'affaire était classée. Quelque temps passe. Clac, coup de téléphone, le même, je veux te voir. Bon, le passé a toujours, plus on vit, plus le passé a de l'importance. Je ne ferai pas une loi, pour moi. Et donc, honneur au passé, je lui ai dit de rappliquer, et il est venu. Et il m'a dit, tout de suite, quasiment, en buvant, parce qu'il avait... Il n'avait pas amené d'alcool, mais il m'a demandé de boire, et j'avais de l'alcool. Et il m'a dit donc très rapidement qu'il voulait que j'écrive son histoire. Et je lui dis que je ne faisais pas profession de ça et que je lui trouverais, s'il voulait, quelqu'un qui ferait ça, mais moi je ne le ferais jamais. Et il insistait, et voilà, bref. En buvant. Et il est reparti, il est revenu, etc. Et je le recevais parce qu'en fait, ouais, peu à peu, il me racontait une histoire assez marrante. J'étais un peu dans le rôle, pas d'un psychanalyste, parce que ce n'est pas mon métier, mais en fait, j'écoutais quelqu'un qui était fou. Hein. Et donc, voilà ce qu'il me disait. Je le synthèse. Je ne crois pas que le mot existe, mais je le crée. Il me dit, voilà, je suis goy et je suis devenu juif. J'ai une très grave maladie, une néphrite, qui aurait pu me tuer quand j'étais enfant. À cette époque-là, ça tuait. Et je m'en suis sorti. Okay. Je suis devenu leader mondial du haricot. Alors là, j'ai commencé à me dire, putain, j'ai une histoire. Parce que si vous voyez comment est un haricot, et si vous voyez comment est un rein, vous dites, il y a quand même une greffe qui a pris. Donc, voilà. Et puis, dans mes origines, il y a une forte possibilité que je sois d'origine juive. Et... la seule chose que faisait mon père, c'était de tout faire pour nous faire passer pour des catholiques ou au moins des agnostiques, mais certainement pas pour des juifs. Donc je trouve que c'était assez marrant que lui veuille être juif au point de le devenir et que mon père avait fait passer toute sa vie à ne pas vouloir être juif. Je me suis dit, tiens, c'est une autre rencontre. Bref. J'ai dit au type, est-ce que tu as lu au moins un de mes livres? Et il m'a dit, j'en ai lu un en entier, et l'autre, je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai été obligé de l'arrêter au quart parce que je ne pouvais pas le supporter. C'est Le Garçon. Je me suis dit, bon, il a lu. Bon. Et alors, j'ai posé mes conditions. Je lui ai dit, bah, écoute, c'est très simple. Je fais un roman, mais c'est mon roman. Ça n'a plus rien à voir avec ton histoire, tu le sais pas, je ne le sais pas. Je vais faire un roman et on verra bien ce qui va advenir. Si tu veux, je fais ça. Si tu veux pas, je le ferai pas. Il m'a dit OK et je me suis retrouvé donc à écrire cette histoire et très vite, je me suis retrouvé dans une impasse effrayante parce que qui c'est qui allait écrire? Richard Morgier, il n'a pas de problème pour écrire. Il écrit toute la journée. Mais là, comment je mettais le premier mot? Comment je faisais pour... Quelle histoire j'allais raconter? Qu'est-ce qui allait se passer? Et en fait, j'étais complètement sec, comme un haricot sec, incapable d'écrire. Donc, j'étais dans la merde quand même. Et il m'avait fait livrer une dizaine de cartons, sa vie, son œuvre, des photos, des statistiques, des lettres de médecin, sa taille, ses cheveux, tout. J'aurais pu le faire chanter pour 300 000 ans. Et alors, je me suis dit, putain, donc voilà, que faire? Et j'ai vu des notes, des écrits enfantins, et quelques lignes, notamment sur la description de la maison de son enfance à Versailles. Alors là, c'est mon instinct de survivant. J'ai tapé ça sur ma machine. C'est-à-dire que j'ai volé, j'ai recopié ces 3-4 lignes qu'il avait écrites quand il était enfant. Et oui, et la greffe a pris. Automatiquement, je me suis mis à écrire derrière l'histoire que vous pourrez lire. Le problème, c'est qu'en fait, à la fin, je ne pouvais pas signer ce livre Richard Morgiev, car je l'avais réellement écrit avec l'identité de ce Jacques Beauchaud. C'est le nom que j'avais pris, parce que c'est un nom complètement anonyme. Bon, il y avait un auteur qui s'appelait Beauchaud, mais personne ne le connaît, malheureusement. Donc j'avais pris Jacques Beauchaud parce que ça me semblait être un pseudonyme sans affect. Et donc j'ai dit à mon éditeur, bon bah on va pas le signer sous le nom de Richard Morgiev, on va signer Jacques Beauchaud. Bon, on a dû en vendre 50. Et ce qui est très intéressant, c'est que entre guillemets le commanditaire, que j'appelle le haricot, a lu 3 fois le livre et était fou de la justesse, de la pertinence, de la vérité de l'histoire que je racontais. Et ce n'était pas son histoire, voyez-vous. Mais ce n'est pas un homme bête du tout. Hein. Alors, ça m'est resté là dans la tête. Et quand ça va mal dans ma vie, très souvent, ça va très souvent mal, souvent, quand ça va mal, j'allais dans ce livre. Il y a un endroit dans ce livre où je me reposais, où j'étais sûr de trouver une sorte de rédemption, de joie et de vie honnête et simple. Et un jour, je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que toi, tu vas te réfugier dans ce livre, mais aucun lecteur ne peut le faire, puisque le livre est passé à la trappe. Donc, j'ai pensé que Joël Losfeld avait un époux que j'aimais profondément, qui s'appelait Michel Nadel, et qui était juif, et souvent on rigolait beaucoup sur les juifs, pardon de vous le dire. Et je me suis dit, mais Michel adorait ce livre. Donc je me suis dit, je vais le faire lire à Joël. Joël a adoré le livre. Elle a publié le livre. J'ai changé quelques petites choses, mais quelques toutes petites choses, et j'ai écrit une postface. Voilà. Voilà, mes amis, vous avez l'affaire en main.
Quel type de choses, même si toutes petites, nécessitaient d'être changées? C'était des changements en question de style ou encore autre chose par rapport au temps passé avec l'histoire, par rapport à d'éventuelles vérifications documentaires, je ne sais.
Ah non, sur les documents, c'est blindé de blindé. Non, en fait, en vérité, j'aurais dû plus relire le livre avant de le republier. Mais j'étais saturé et en fait, je n'avais pas un document de travail très intéressant parce que tous les textes que j'avais étaient interpolés. Il ne me restait plus que le roman publié sous le nom de Jacques Beauchaud. Et des fois, je n'avais pas la force de l'ouvrir. Mais j'ai appris un truc en travaillant dans le cinéma. J'ai beaucoup travaillé dans le cinéma. J'ai beaucoup appris. Et notamment, me faire marcher sur la gueule. Et j'ai appris, mais ça sert. Hein. Jusqu'au jour, j'aurais dit d'aller se... Mais ce que j'ai appris, c'est que le pire des cons, il faut l'écouter. Il faut surtout l'écouter. Parce que cette personne va peut-être, sans le faire exprès, dire un truc juste. Et ça m'est arrivé, avant de rééditer donc ce livre sous mon nom, un abruti a dit une méga connerie. J'ai réfléchi et ça m'a énormément aidé. Donc j'ai supprimé quelques mots du livre. J'ai supprimé une partie de phrase au départ du livre. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai raison. Donc voilà, j'ai fait un très petit travail, mais je suis très heureux de ce tout petit travail et de la postface dont je suis très content. Parce qu'elle est juste, honnête et sincère. Parce que je ne pouvais pas publier le bouquin sans dire, cher lecteur, il a déjà existé, c'était prendre les gens pour des cons. Mais si j'avais mis ce texte en préface, ça aurait été malhonnête. Parce que j'étais à peu près sûr de capter le lecteur dans ce cas-là. Et je ne voulais pas faire ça. Donc je l'ai mis en postface. Voilà, mes amis.
Et alors, ce que tu viens de nous raconter, qui est donc en postface, démarre. Alors certes, il y a un effet de blanc. Mais il n'y a pas une petite astérisque de fin.
Ouais, que dalle.
Et donc, c'est vrai qu'en le lisant, je savais l'histoire, mais si par hasard, on ne la sait pas, ce produit, et je me suis dit, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est une erreur de mise en page? Est-ce que, du coup, ce produit, cette confusion-là? à la toute fin du livre. C'est-à-dire que soudain, le jeu qui nous parle, qui nous raconte la vie de Beauchot depuis le début, commence à, en 2012, une relation du passé m'a contacté. Et c'est ce jeu-là, Richard Morgève, le narrateur, qui parle. Et du coup, c'est comme une matérialisation de cette confusion des deux.
C'est une très. Alors, c'est la preuve quand même qu'il est très malin quand même. En fait, voyez-vous, moi j'ai fait une connerie. Enfin, j'ai pas fait une connerie. C'est Gallimard qui s'occupe de tout ça, marketing, tout ça. Bref, théoriquement, ça aurait dû être en belle page. Hein, c'est-à-dire que la fin de ce que j'ai écrit, crac, sauter une page et crac en belle page la postface. Ça n'a pas été fait. Sur le coup, j'ai vraiment râlé, mais assez fortement. Puis je me suis dit, ce que vient de dire Gwenaëlle, c'est génial, ça devient complètement conceptuel, quoi. Ce qui n'est pas du tout, je ne suis pas du tout, carrément pas dans le ready-made, le concept. Mais en fait, ce livre, de fait, l'est. Et il faut accepter la nature des choses. Donc, ce fait que, en fait, le livre n'en finit pas, on passe du livre à l'explication du livre, je trouve que c'est génial, mais ce n'est pas moi. C'est une faute de la maison Gallimard et maintenant je l'assume. Dans les rééditions, il y en a eu, on a gardé la faute.
Et alors donc cette histoire, ici, le personnage qui parle à la première personne, qui nous raconte sa vie, il parle partie de la première personne, je m'avance ici, si, je pense quand même, c'est Jacques Beauchot. En tout cas, on est avec Jacques Beauchot. On est au sein d'une famille dans les années 50, en gros, 60, ouais. L'enfance, c'est 60, et une famille donc, bourgeoise. Mais il y a beaucoup de violence et beaucoup de malheur. C'est-à-dire qu'il me semble-t-il, il y a quelque chose d'un déplacement. Intéressant, j'ai pas lu tous tes livres, mais beaucoup d'entre eux se passaient plutôt dans un milieu social inférieur, et la violence faisait corps avec la misère. Là, on s'en prend quand même beaucoup de violence intrafamiliale dès le début, dans le rapport entre les quatre frères, et notamment celui le plus âgé, qui commence par le traiter de juif, comme si c'était... avec beaucoup de violence. Le rapport à la mère, qui est dévorante. Et il y a quelque chose de très violent dans cette forme de huis clos, d'enfermement, alors qu'on est chez des privilégiés.
Alors, moi,
semble-t-il, au début,
j'ai connu. Je vais vous raconter ma vie, hein, pour qu'on se comprenne bien. Papa était très grave. C'est un escroc, je pense. Il est mort, pas son âme. Et donc, maman m'a du lait. J'étais le petit dernier et j'avais le droit de pisser partout. Papa a pris une gouvernante anglaise, Miss Mabers, qui avait un sifflet pour m'empêcher d'uriner où je voulais. Et donc j'ai commencé la vie avec une gouvernante et j'étais terminé assez vite dans la misère parce que papa a perdu tout son fric. La situation de famille a quasiment été dramatique. Dramatique. Elle a été mort de mes parents, violence permanente, présence de la mort physique. Papa était très violent, plantait des fourchettes dans les épaules des gens, ça rigolait pas. Casser des bouteilles sur la tête des gens. Et tout ça en parlant très bien avec. Bref. Donc la violence, elle est partout. Elle est dans tous les milieux. C'est ce que j'ai appris. J'ai beaucoup d'amis très riches, beaucoup d'amis très pauvres. La connerie, l'intelligence. Voilà. Et en tant qu'écrivain, vraiment, je ne juge pas les gens. Je ne juge pas mes personnages. Jamais. Même si c'est le pire des salauds. Donc j'avais la chance, puisque j'ai l'expérience du fric, de transposer ce que je savais, moi, d'une richesse joyeuse et fatale, celle de ma vie, dans la vie du haricot, qui jamais dans cette famille très riche, ils auraient pu supposer autant déconner avec le fric que dans ma famille. Donc j'ai fait une sorte de transposition là de ce que je sais de la vie des riches. J'ai fait cette greffe. Tout à l'heure, je vous ai parlé de greffe de l'écrit du petit garçon. Et là, moi, j'ai greffé beaucoup de choses. De ma vie d'enfants. Beaucoup de choses sur les femmes, fatales, j'en ai connu, enfants et plus tard. Et j'adore ça, la fatalité. Vous savez, il y a mille façons de vous habiller. Il y a mille façons d'être peigné. Il y a mille façons. Mais la fatalité, quand un écrivain peut l'avoir dans les mains et l'exprimer, c'est vraiment la joie. Donc la maman du héros est fatale tout le temps. Elle est belle, elle est, entre guillemets, folle, elle est irrésistible. Et son fils, Jacques Bouchot, ne peut pas lui résister. C'est impossible. Donc, moi, en tant qu'écrivain, c'est une joie farouche. J'ai tout, j'ai l'inceste, j'ai tout, j'ai le fric et tout. Je peux te déconner à fond avec ça. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ce qu'on n'a pas dit, pardon, parce que quand même, c'est moi, c'est pas Gwenaëlle. Je vous avais dit... Goy, devenu juif, néphrite, champion du monde du haricot. Ouais, mais j'ai oublié un truc quand même qui est très important. Dans la vérité, le papa du haricot, c'est un jeune garçon croyant, jeunesse catholique, engagé dans sa foi. En 40, il distribue des tracts. C'est un enfant, hein. Contre les Allemands, vous voyez, mais. Et ping, chopé 7 camps de concentration. Et il en est ressorti avec une maladie urinaire, une incontinence qui venait, qui partait. Donc c'est quand même super important, quand même. Vous voyez, le papa qui n'est pas juif, mais qui fait 6 camps de concentration, pardon, qui en revient malade. Et qui est le fils du haricot, le vrai haricot, ou mon Jacques Bouchot, la vache, ils ont un truc lourd. Ils ont un truc lourd. Certes, ils ont du fric, mais c'est pas facile.
Alors, il y a un truc qui se joue, je parlais des rapports entre les deux frères, et ça, c'est vraiment au début. Hein. Donc, le grand qui s'appelle. Oui, qui s'appelle Malraux. En fait, c'est Pierre-Henri, mais il s'appelle Malraux. Le traite de juif par rapport à la circoncision. Mais il y a plusieurs choses qui se mêlent à cet endroit-là. C'est-à-dire que le père a fait les camps de concentration, donc l'un est juif, mais pas l'autre. Il y a aussi toute la part de légende familiale, de fiction que constitue une légende familiale. Et en même temps, il y a l'ombre de ce qui s'est passé au XXe siècle. Enfin, je veux dire, ça concentre le voilà. Et ça, dès le début, dans le rapport entre les frères, il y a le mot juif et comme une insulte, mais il y a aussi la trace des camps et de l'histoire réelle. Et puis, il y a la fiction familiale. Enfin, ça, c'est comme un nœud avec plein de choses dedans.
Quand on écrit, on a la chance d'avoir la possibilité de devenir, référence à Flaubert, hein, Bovary, de devenir le personnage. De devenir à l'époque, d'avoir la chance de travailler sur de multiples arrière-plans et pourquoi pas de multiples futurs. On a toutes les chances du monde, c'est juste un problème de boulot. Il faut simplement arrêter de prendre les gens pour des cons et écrire des livres qui s'adressent réellement aux sentiments. Hein ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bouquins qu'on peut se passer de les lire puisqu'ils sont déjà écrits. Hein ? Très souvent, on lit des livres, ils sont déjà écrits. L'écrivaine, comment on dit, l'autrice, l'auteuse, ce sont des gros feignantes, ils foutent rien, ils prennent des livres, le ciel est bleu, ses seins frémissaient sous son chemisier en soie blanche, il sonna, la belle-mère, tout ça, tous ces livres qui n'existent pas en fait. Hein. Donc moi, comme en fait j'ai qu'une vie, j'essaie de faire des livres qui existent, et bien sûr, ils ne sont pas là pour plaire, hein, parce que je pense que la littérature, elle n'est pas. Si on veut plaire, on est mort. Ou on écrit, on écrit, voilà, des bouquins, quoi. Mais si on veut soudain faire passer un sentiment, ça se paye. Il n'y a aucun sentiment transmis par un auteur qui ne se paye pas directement par l'auteur. Si l'auteur n'est pas pris par les sentiments qu'il exprime, pris au sens de mettre sa vie en jeu, hein, parce qu'il s'agit bien de ça, hein. Eh bien, ça passe pas. Je mets ma vie en jeu. Alors là, carrément, ma parole d'honneur. En fait, je dis n'importe quoi, mais si, parce que quand même, moi, j'ai une lecture différente de celle notre ami Gwenaëlle. Moi, en fait, j'ai démarré le livre, si vous lisez la première phrase, où j'ai déjà mis l'idée d'un rêve extrêmement puissant. Puis après, je suis un mec simple, j'aime bien me marrer. J'avais quand même, je savais que je pouvais vraiment rigoler avec cette famille de riches, les enfants et tout. Et j'ai vraiment pris mon pied à décrire une famille qui déconne un peu, mais où quand même, voilà, j'ai passé un bon moment. Mais ça ne suffit pas. Et le livre est assez gros et il y a plein de choses à raconter. Donc je pense que pour moi, je vois un départ de livre assez joyeux, mais pas tout le temps. Par la suite du livre, cette joie n'est pas tout le temps présente.
Ah, c'est drôle, hein, parce que j'aurais presque... Mais c'est, enfin, voilà,
c'est toi qui as raison, moi j'ai...
Ah, non, mais chaque lecteur a sa traversée d'un livre. Mais moi j'ai démarré dans un truc terrible, et là je pensais, notamment cette fratrie. Alors en plus, ils ont leur surnom, il y a la violence entre eux, on a un peu de mal à s'y repérer au début, qui est qui. Et ils ont une histoire qui est dure, mais ils cheminent, me semble-t-il, vers au moins une tentative de fraternité. Fratrie, fraternité, c'est la même étymologie. Et j'y pensais vraiment, je veux dire, d'une part, il y a beaucoup de livres, tu en écris 30, donc je ne peux pas prétendre exhaustivement dire tu n'as pas traité ça, mais tu traites plus souvent de l'individu seul que du collectif. Et donc, là, une fratrie, c'est quand même un collectif qui tente d'exister, qui tente de se donner forme. Il pouvait y avoir déjà des traces de ça dans les deux flics dans le précédent. Il y avait quelque chose qui allait vers la fraternité. Il y avait des traces parfois, mais bon. Là, en l'occurrence, il me semble que c'est une des hypothèses aussi. C'est-à-dire qu'on traverse quelque chose qui n'est pas doux, hein, parce qu'il y a du drame là-dedans. Mais il y a quelque chose qui passe d'une violence infantile et qui va tout de même vers plus d'empathie, de compréhension entre eux, du moins entre ceux qui restent, sans tout révéler, enfin voilà, une traversée vers une tentative de fraternité.
Moi, je vais vous dire la vérité. Hein. On va lui
c'est prendre
la main à la porte, on va la fermer, il va s'écraser ses doigts. Alors, écoutez, parlons de la fraternité de cette famille. Bon, pas besoin d'acheter le livre, je vais vous le raconter. Un des frères meurt, ou c'est tout comme.
Ce que je n'osais pas dire, moi, je ne voulais pas spoiler. Voilà,
déjà, un de moins. L'autre se suicide. Donc, deux, ils étaient quatre. Et le troisième est tellement con et dégénéré que les liens sont coupés. Donc, honnêtement, les liens de la famille, la mère exit et le père aussi. Donc, quand même, ce n'est pas une idée de la fraternité. Il va faire de la politique, hein, je pense. Voilà, politique en France, hein, en Suisse, je ne sais pas, mais bon, voilà. C'est contestable ce qu'il dit.
D'accord, tout à fait. Voilà, mais il y a des drames, il y a quand même quelque chose qui se passe en tout cas entre les deux qui restent, qui est quand même autre chose que le début.
Il y a. J'ai essayé de faire, parce que j'aime bien être sadique quand même, de se dire, bien sûr, en écoutant Gwenaëlle, voilà, on pourrait faire ce livre-là. Donc, à un moment donné, dans le livre, où il y a le drame. Est fécond et va encore être un peu plus beau et tragique, eh bien, je me suis dit, on va faire en sorte qu'ils soient réunis, mais pour la dernière fois dans ma tête, ils ne peuvent pas se réunir. D'abord, je ne crois pas vraiment à la famille. Je suis orphelin, vous voyez, donc j'ai beaucoup de mal à imaginer ce que c'est qu'une famille. Mais moi, ce que je voulais écrire et que je crois avoir écrit, c'est comment arriver à se libérer de la famille et comment arriver à vivre cette destinée. C'est ce qu'arrive à faire Jacques, le haricot dans la vie. Et je trouve que c'est beau. C'est beau si on arrive à vivre sa destinée, même si ce n'est pas toujours facile. Souvent, par faiblesse, on ne vit pas nos destinées. Hein, on se met sur la touche. Parce qu'on est vieux, parce qu'on est blond, ou parce que je sais pas, parce qu'on va gagner du fric, mais on vit pas sa destinée. C'est con parce qu'on n'a qu'une vie. Donc là, Jacques Bochot, il vit sa destinée.
Et je vais encore me faire engueuler. Il y a une question, celle-là, Je sais quel cantard. J'ai essayé de ne pas formuler ça, ou me faire corriger, tant mieux. La question de la filiation, ce truc impossible. Et ça, c'est là, bien évidemment, tu l'as dit, orphelin, et c'est dans des livres avant, c'est une question, c'est une vaste question, qui est tournée de différentes façons dans ton travail, parce qu'il y a aussi une forme d'élégie dans Mon petit garçon. Enfin, voilà, c'est aussi quelque chose de très beau. Mais là, c'est un impossible, techniquement, à un moment. Mais c'est quelque chose vers quoi il veut tendre. Devenir père pour comprendre ce que c'est qu'être un fils.
Ah ouais.
Parce que ça reste un gros mystère au début. Ce père, il est fantomatique, quoi.
Alors, le père, oui. En fait, il a une importance, mais pour le fils, pour Jacques Bochot, il a l'importance du père et il a lâcheté du père et il disparaît comme beaucoup de pères. Ce n'est pas un bouquin contre les pères, hein, j'en suis pas là. Mais évidemment, Jacques Bochot, comme beaucoup d'entre nous, a tendance à penser que la reproduction, c'est une forme de transcendance. C'est une forme de super sécurité. Tiens, je serai jamais mort. c'est ce que les gens se disent, hein. Ouais, je vais faire des enfants, je ne le dis pas, mais comme ça, je ne serai jamais mort. Et Jacques, il va échapper à ça, de force. Donc, c'est bien de la destinée d'un homme dont je traite, unique et fragile, et dans la vérité, complètement alcoolique. Mais dans le livre, il n'est pas alcoolique. Enfin, il arrête. Il faut lire généralement les livres et s'apercevoir que dans l'histoire générale des livres, on retrouvera toujours le même schéma, qu'il y a des bons livres et des mauvais. Le tout, c'est tomber sur les bons.
Là, on a pas mal parlé de psychologie et il me semble que c'est un des aspects de ton travail. Alors, souvent, littérature psychologique, on se le disait tout à l'heure en haut, quand on dit littérature psychologique, c'est quelque chose d'assez caricatural. On s'imagine justement un peu ce que tu évoquais, des livres où il ne se passe rien, en gros. Enfin, des livres un peu inertes. Et en l'occurrence, y a des sortes de concrétions, de compréhension de l'existence qui apparaissent comme ça, sans que le livre donne une leçon, parce que ça raconte d'abord des choses, mais il y a des apparitions de questions profondes, métaphysiques et essentielles sur le sens de l'existence.
On ne peut pas écrire à moi. Enfin, pour moi, écrire, c'est vraiment le principe. Oui, se poser des questions sur le sens de l'existence, oui, sur la plastique du temps, sur pourquoi, comment, si à chaque personnage, à chaque évolution de personnage, chaque drame, chaque joie doit être amené de telle façon que ça ne soit pas justement il s'émère et voilà, ta 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 ta. Donc dans mes livres, j'essaye, numéro un, de faire mal. Parce que je hais le lecteur et je veux le faire souffrir. Deux, je veux le faire rire. C'est un paradoxe, c'est pour ça que je vends peu de livres, parce que il faut un public clivé, quoi. Donc je cherche le clivage. Tu rigoles, tu souffres, et tu fais pas le malin. J'ai bien dit que j'avais peu de lecteurs. Pourquoi ? Parce qu'en général, si vous voulez, le lecteur veut, on pourrait dire, un travers du lecteur. Ce travers, c'est le lecteur est un feignant, et un mégalomane. Il veut avoir raison. La preuve, il saute des pages. Hein. Il saute des pages, il saute des lignes, des paragraphes. Et il retombe. Et les écrivains, les salauds qui jouent ce jeu-là, ils mettent plein de marques. Hein. Hein, pour que le mec, quand il est allé aux chiottes, qu'il a sauté trois pages, il se retrompe dans ses pantoufles. Moi, c'est non. Alors ça, la lectrice qui s'amuse à ce jeu avec moi, elle va rentrer dans la salle de bain et quand elle sortira, il n'y aura plus de couloir. Terminé. Ces marques, elle peut se les mettre où je me pense. Et pour tout, je passe mon temps à biaiser la chaîne la chaîne de la logique du lecteur pour l'amener dans ma, entre guillemets, mes amis, je mesure ce que je dis, ma toute puissance limitée, limitée au fait de l'écriture du livre que j'écris. Voilà. Pour qu'en fin de compte, le lecteur soit content. Comme ça, il n'a pas lu un livre qu'il avait déjà écrit dans sa tête. Je vous garantis que c'est... Je passe mon temps à me dire, tu vas ouvrir ce tiroir, mais tu ne trouveras pas ce que tu veux dedans. Et il faut que l'intérêt de la lecture soit amené par, on pourrait dire, l'idiosyncrasie des personnages. Vous n'êtes pas, chère madame, moi. Si vous êtes mon héroïne et que je vous traite comme moi, je suis vraiment un sale con. Il faut donc que je trouve votre tempérament personnel. Et donc mes livres, c'est l'addition de tempérament personnel. Et donc, en bout de course, de temps en temps, on a des révélations sentimentales.
Voilà, mais je cherche, je voulais donner un exemple pour être moins vague. Hein, pour... Lorsqu'il nous est impossible... Alors là, à ce moment-là, il s'est passé... Quelqu'un est mort. Et il y a un état de choc.
Oui, c'est content ce qu'il disait tout à l'heure.
Lorsqu'il nous est impossible d'assumer la réalité, les événements qui la composent deviennent immédiatement des souvenirs, s'estompent et se déforment sur le champ pour nous permettre, non pas de les affronter, mais de survivre. Déjà. Et puis, le cinéma avait été inventé pour ça, pour échapper à nos vies. Et là, il y a juste un paragraphe, mais il y a au moins il y a une idée générale et il y a cet exemple de... Voilà, il y a une idée qui est relancée encore par autre chose. C'est-à-dire que sans jamais être un... on l'a bien compris, quelque chose qui est là pour donner la leçon, puisque de toute façon, tout est basé sur le court-circuit. Il y a des apparitions comme ça, je dis, de moments de sens qui, pour moi, là, voilà, là, ça fait de la métaphysique de manière très, très précise.
Mais parce que nous tous, je le sais, je ne vous connais pas, bien sûr, mais je sais qu'on est tous des métaphysiens, métaphysiciennes, des philosophes, des Saint-Augustine, Saint-Augustin. On est très souvent épaté des vérités que nous découvrons. Très souvent, on ressent des choses extraordinaires. On a des moments de lucidité démoniaque. Tous, toutes. Celui qui écrit ou celle qui écrit ne fait juste que dire ça. Mais trop souvent, les auteurs oublient le fait que les lecteurs à qui ils s'adressent sont des poètes, des métaphysiciennes. C'est compose l'humanité. Le livre doit, paf, donner ça. C'est un échange. Je vous écris, vous me lisez, nous sommes tous ces êtres-là, si complexes et si beaux. En fait.
Et alors, il y a d'autres exemples comme ça, moi, qui m'ont beaucoup intéressé parce que c'est d'abord une histoire, on l'a dit, des personnages au sein d'une famille et une traversée personnelle intense. Donc c'est pas du livre réaliste ou sociologique ou qui décrit une époque. Pour autant, à l'instar de des hommes qui racontaient le revers de la Trente Glorieuse, des Trente Glorieuses, enfin les années 60-70, du côté plutôt de la défaite. Là, il y a aussi une traversée de la deuxième moitié du XXe siècle et discrètement par des détails souvent assez concrets, ça dit quelque chose de l'époque. Il y a un passage, alors je vais vous en lire deux courts, hein, vous inquiétez pas. Non, mais voilà. Non, mais c'est pour donner un exemple assez concret. Faut juste que je les retrouve, ils sont là. Ils sont là ? Ils sont pas là. Ils sont là, voilà, si. Deux courts exemples de ce que je veux avancer sur l'époque et sur ce que tu peux en faire.
Il doit être angoissé là, c'est trop horrible.
Alors, ils écoutent un 45 tours. On est dans les années 60. Le disque s'est arrêté de tourner. 4 minutes 29 secondes s'étaient écoulées. Écouter des 45 tours responsabilisait sur la vie, faisait comprendre qu'on ne peut pas en écouter sans fin, qu'on meurt un jour. Je suis sorti de la chambre.
Sur le palier, j'ai croisé Malraux qui sortait de la salle de bain. Et voilà, l'écoute d'un 45 tours, le truc se finit, ça fait comprendre une autre finitude. Et en même temps, c'est aussi un petit détail très concret, c'est-à-dire que c'est quelque chose de l'époque, mais effectivement, ce geste de devoir le remettre, tu lui prêtes là, en l'observant, une signification qui, à mon sens, est très intéressante dans ces... voilà, dans ce qu'elle peut nous amener à penser. Puis un autre exemple, alors encore un peu plus vaste, on va dire. Après avoir parlé des descriptions de la guerre par Henri Barbus, on est page 257. Non, merci, laissez tomber. Hein, c'est pas, ça fait classe, c'est comme les comédiens qui jettent sur...
Je vivrai jamais avec lui. Hein.
Sur un mur, j'avais écrit deux phrases tirées d'un passage de l'enfer. Chaque être est seul au monde. On ne peut dire qu'une chose, je suis seul. Oui, seul, mais Henri Barbus ne pouvait pas imaginer la solitude terrible engendrée par la société de consommation. L'homme ne se voyait plus que dans ce qu'il achetait ou souhaitait acheter. Il était plus que seul. Il était dépossédé sans cesse. Une sorte d'aboutissement de l'œuvre des camps. Voilà, et c'est pareil, hein, je vous avais dit, ils ne sont pas longs, mais ils sont assez tranchants.
À partir du moment où on réfléchit un poil, on voit une vision... de la société historique. Si on analyse la dérive du siècle qui vient de s'écouler, on voit bien que les camps de concentration rentrent réellement, pour moi, hein, je ne fais pas de la socio, mais les camps de concentration sont le début de la société de consommation. C'est une évidence. Hein. C'est une dérive folle. La déshumanisation, on la vit tous, non? On n'a pas tous un peu l'impression que la société se déshumanise un petit peu, par moment? Hein? À force d'acheter. Et puis maintenant, on dit qu'il ne faut plus acheter. Mais c'est drôle, c'est trop tard. C'est parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas ne plus acheter. Il n'y a plus rien. On ne peut plus acheter que des choses. Nous-mêmes, nous sommes devenus des choses. Vous n'allez pas me dire c'est possible d'être un anachorète. Tu vas trouver ta colonne de pierre où? Dans quel désert? Il n'y a plus que des tours opérateurs qui passent, etc. Et puis il y aura des éoliennes, puis dans les déserts, puis il y aura... Donc, écrire aujourd'hui, c'est quand même rendre compte d'un épouvantable drame qui se passe devant nos yeux. Et les écologistes sont bien marrants. Mais c'est trop tard. C'est trop tard pour avoir du gazon. Ou pas de gazon. Ou avoir des patates avec ou sans. Mais non, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Et la littérature était là depuis le début pour le dire. Et maintenant, on est plutôt vers la fin. Il ne faut pas cesser de le dire. C'est maintenant qu'il faut bien montrer que c'est trop tard. Voilà.
Oui, mais voilà. Mais on continue quand même, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de geste désespéré.
On est là.
Parce que c'est là depuis longtemps. C'est-à-dire, je me rappelle d'une interview, ça devait être au Matricule des Anges, où tu disais ça déjà, c'est-à-dire qu'on reprochait, enfin, on pouvait dire que tes livres étaient provocateurs, et tu t'insurgeais là-dessus en disant que c'est pas moi qui suis provocateur, c'est la société dehors. Ouais. Si je sors dans la rue à Paris, il y a un mec en train de crever devant moi.
Mais on est fait pour vivre. Donc, bien sûr qu'on sait que c'est foutu. On ne fait pas de politique, enfin, je pense ici pas trop, donc on n'est pas malhonnête. Il fait de la politique, pardon, excusez-moi, vous n'êtes pas concerné. Mais donc, il ne faut pas déconner, on sait bien, si on réfléchit posément et tout, que c'est cuit. Voilà, c'est cuit. Donc, on peut continuer de rigoler et tout, ça ne changera rien. Hein. Voilà. Mais pour en revenir à ce livre, le héros est comme vous et moi, c'est qu'il note, et puis il vit, voilà, comme vous, monsieur, voilà, vous, madame. C'est notre beauté, d'ailleurs, et c'est encore le travail de la littérature. La littérature, c'est génial, parce qu'en fait, ça parle de nous, quand même. Hein. C'est des gens, ils ont des pieds, des mains... dans le nez, et voilà, ils tuent des gens, elles tuent ceci, ils font cela, et nous-mêmes, évidemment, c'est la magie. On vit grâce à eux. Moi, je vis parce que j'ai lu. Je me serais tué si je n'avais pas lu. C'est clair et net. Petit, hein. C'est sûr. Donc, c'est quand même formidable. Et j'ai vécu, parce que j'ai vu d'autres êtres vivre. On ne peut pas le faire dans nos vies. Moi, je ne sais pas comment vous vivez, madame. J'ai aucune idée, ni vous. En revanche, dans le livre, tac. Et c'est une super vitamine de pouvoir voir la vie et de pouvoir être quelqu'un d'autre. C'est la fonction majeure de la littérature. Voilà. Si vous faites de la politique, plus d'argent pour les écrivains. C'est un slogan pas mal, mais bon, je sais pas si ça peut aller très loin, mais bon.
Merci. J'en ai évidemment encore d'autres questions, mais j'en ai marre de me faire engueuler. Alors, non, je plaisante. Non, mais voilà, vous laissez la parole aussi, que vous ayez lu ou pas lu Richard Morgier. Vous pouvez être aussi surpris si vous ne connaissez pas et vous pouvez avoir d'autres questions à poser, évidemment, ou si vous avez lu le livre. On n'en a pas abordé le dixième parce qu'il est très vaste. Il y a beaucoup de choses dedans. Est-ce que vous avez des questions, des déclarations, des missives, des
missives, non.
Oui, madame. Non, je croyais que c'était une
secrétaire peut-être. Ben merci.
Non, moi je prends une dernière quand même. Il y a un truc qui m'a hyper intrigué dans le livre, il y en a plusieurs, mais dans tout ça, qui raconte une vie, alors avec des chaos et tout, il y a un moment, il est malade, il va aux États-Unis, et là, il y a une traversée des États-Unis qui est extrêmement mystérieuse en soi. C'est comme une vision à l'intérieur de la vision.
Oui, c'est fait exprès. Je pense que dans chaque livre, il faut qu'il y ait une petite sortie de route contrôlée. Ça fait partie justement de... Comment vous dire ? Malheureusement, même si on lutte, on sait très bien quand même qu'en sortant de la salle de bain, il y aura le couloir. C'est triste. C'est très triste. Donc dans mes livres, à un moment donné, j'offre une petite possibilité d'échapper. Après, au lecteur d'en faire... Et au héros, le héros, il est rentré en France. Eh ouais. Il a choisi. Il aurait pu rester là-bas et j'aurais arrêté le livre. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Dans un premier temps, Gwenaëlle parle de ce passage. Eh bien, j'ai réécrit le livre quand j'écrivais sous le nom de Jacques Bouchot, dans une de mes multiples personnalités. Eh bien, j'ai arrêté le livre là parce que j'ai, en fait... Ben moi, je me suis dit, je suis en Amérique. J'ai laissé tomber l'histoire de l'autre con et je suis parti. Puis bon, je suis resté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ben, ça m'a pris 2-3 mois. Hein. Et puis je me suis dit, ouais, ben bon. Donc, pof, j'ai jeté le boulot et je suis reparti dans la lignée d'écrire l'histoire du haricot, qui n'est pas l'histoire du haricot.
Voilà, vous avez tous et toutes bien compris.
Voilà. Alors, écoutez, merci beaucoup à Gwenaëlle, parce que sans lui, nous ne serions pas là. C'est ce genre de personne, femme ou homme, en l'occurrence, je crois que c'est un homme, qui transmet. Les écrivains viennent, ils racontent leur salade. Voilà. Merci beaucoup.
Ben merci d'être là. Hein. Enfin, sinon, il n'y avait rien à faire. Merci, Richard. Et bonne suite de festival.